bibliothèque en forme d'hommage que nous vous proposons aujourd'hui. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, 11 personnes étaient assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo, parmi lesquelles l'économiste et chroniqueur Bernard Maris. C'est le tome 1 de son anti-manuel d'économie, publié en 2003, que nous avons choisi de placer dans notre bibliothèque pour ce premier épisode de l'année 2019. Bonjour Danny Lang.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Paris 13, spécialiste de l'économie du travail et membre des économistes atterrés. Anti-manuel d'économie, voilà un titre qui résume bien la défiance de Bernard Maris à l'égard des économistes. Et cela, même s'il en était un lui-même.
Oui, en effet, ça résume sa défiance, mais en même temps, Bernard Maris, dans une certaine mesure, avait une défiance vis-à-vis de l'économie dominante, mais il essayait de développer d'autres approches, et en particulier une approche qui m'est particulièrement chère, qui est l'approche de Keynes.
Donc l'approche hétérodoxe,
oui, et en l'occurrence, l'une des approches hétérodoxes.
Il parle des économistes comme des grands prêtres d'une pseudo-science déjà en pleine déroute. Il dit aussi que l'économie est le discours des puissants, que c'est une science religieuse. C'est une charge importante contre l'économie dominante.
Oui, en effet, ces lignes n'ont pas pris une seule ride. Cet ouvrage est paru en 2003, si je ne me trompe pas, et les critiques qu'il adresse à l'économie dominante, à l'économie mainstream, sont toujours d'actualité. C'est peut-être une charge dure, mais en même temps, il nous présente aussi d'autres aspects de l'économie, en particulier les économistes classiques, qui nous parlent un peu de Marx, ils nous parlent beaucoup de Keynes, son économiste favori. Donc ça n'est pas qu'une charge, c'est aussi un ensemble de propositions positives. Et puis ce que j'ai bien aimé dans cet ouvrage, c'est aussi qu'il nous présente un certain nombre d'extraits de textes d'auteurs qui vont de Montesquieu à Houellebecq, en passant par Jean-Marie Arribet, John Kenneth Galbraith, etc. Des auteurs que j'ai été amené à fréquenter par la suite.
Alors, faut-il rire des économistes? C'est la question que Bernard Maris pose d'emblée en introduction de son livre. Et en effet, c'est avec beaucoup d'humour qu'il convoque tour à tour des économistes classiques, des philosophes, des romanciers pour répondre à la question centrale de l'économie, selon lui, qui est celle du partage de la richesse. Finalement, c'est un manuel ou un anti-manuel qui est particulièrement pédagogique, que l'on peut facilement conseiller.
En effet, c'est un anti-manuel qui est accessible à des personnes qui n'y connaissent rien à l'économie. Et Bernard Maris, justement, se moque des économistes dominants qui se présentent comme des gens extrêmement sérieux, qui emploient un langage, y compris un langage formalisé, souvent incompréhensible du commun des mortels, pour enfoncer des portes ouvertes. Donc, à mon avis, c'est à mettre entre toutes les mains.
L'une des premières théories qu'il cherche à battre en brèche dans cet ouvrage, c'est cette idée chère aux économistes néoclassiques, selon laquelle les êtres humains sont des êtres rationnels. Au contraire, dit-il, il n'y a pas plus irrationnel que l'homme. Et pourtant, malgré toute une série de remises en cause, la théorie de l'homo economicus a la vie dure.
Elle a la vie dure, même si Jean Tirole, le prix Nobel d'économie récent, nous raconte aujourd'hui que l'homo economicus a vécu. Enfin, son école de pensée néoclassique ne cesse de nous décliner cet homo economicus hyper rationnel qui sait tout, qui calcule parfaitement, etc. Et Bernard Maris, qui avait bien lu Keynes, avait bien compris que, certes, il y a une forme de rationalité en économie. Cette rationalité est limitée, mais c'est une rationalité qui est loin d'être celle qu'on trouve dans les modèles dominants. Dans les modèles dominants, vous avez des individus qui sont capables, par exemple, de calculer leurs revenus sur l'ensemble de leur vie. Enfin, des choses qu'on ne voit pas dans le réel. Et effectivement, il y a aujourd'hui de plus en plus d'économistes qui s'intéressent au comportement, des économistes qui, enfin, au comportement non pas abstrait, celui des manuels d'économie, la maximisation d'utilité, mais qui s'intéressent au comportement effectif des individus. Donc, de ce point de vue-là, on a une évolution positive, mais globalement, le mainstream continue de supposer qu'on a cet individu ultra rationnel, ultra intelligent, et fonde ses modèles sur cet individu qui n'existe pas.
Dans cet anti-manuel d'économie, Bernard Maris dénonce aussi l'utilisation des mathématiques en économie. Les équations laissent la raison résonante, écrit-il. Alors, quels sont ses arguments, Danny Lang?
Alors, Il critique non pas l'usage des mathématiques, parce que finalement les mathématiques en soi c'est quelque chose de tout à fait louable, il critique le fait qu'on utilise ces mathématiques pour cacher la pauvreté d'un certain discours. Donc en soi, à mon sens, le problème n'est pas l'usage des mathématiques en économie, j'en fais moi-même un usage assez abondant. Le problème, c'est les hypothèses qu'on met derrière les modèles mathématiques, des hypothèses souvent simplistes et qui ignorent tout simplement les avancées scientifiques, en particulier en psychologie, en neurosciences, en anthropologie. Donc c'est plutôt ça que Bernard Maris pointe du doigt. On a parfois de longues équations, des articles pleins d'équations pour nous montrer des choses absolument absurdes.
Il écrit par exemple « Le réel est sale, il sent le bidonville et la souffrance, la pauvreté pour tout dire, et les équations permettent de se boucher le nez ». Il remet également en cause un autre concept évidemment fondamental en économie, le concept de concurrence, qui est pour lui à la fois un non-sens et une croyance religieuse. La création de valeur, dit-il, n'est pas dans la concurrence, mais dans la coopération. C'est oui. Aussi en cela que Bernard Maris est un économiste hétérodoxe.
Tous les hétérodoxes ne remettent pas fondamentalement en cause le marché ou la concurrence, mais la plupart des hétérodoxes pensent que le marché doit être encadré, limité, et c'est le cas particulièrement des Keynésiens dont Bernard Maris se réclamait. Et je pense que le marché a des bons côtés, mais qui ressemble plus à ce que Bernard Maris décrit plutôt qu'à ce qu'on trouve dans les manuels d'économie. Dans les manuels d'économie, on a une concurrence propre qui bénéficie à tout le monde, qui est un jeu à somme positive. Bernard Maris nous décrit plus la concurrence telle qu'elle est. Elle est souvent violente, elle est souvent destructrice, elle peut avoir des bons côtés. Il faut regarder secteur par secteur. En tant que keynésien, je ne suis pas fondamentalement opposé au marché, mais je pense que le marché laissé à lui-même, quand il n'est pas encadré par des règles, quand on n'a pas un État qui est là pour intervenir, mène à des résultats désastreux, et en particulier les inégalités sociales et la violence.
Et Bernard Maris remet aussi en question un certain nombre de lois dont il estime qu'elles sont des croyances, et oui. Notamment la loi de l'offre et de la demande. Il dit la loi de l'offre et de la demande, cela n'existe pas. Alors non, expliquez-nous cela.
En effet, Bernard Maris ne croyait pas un certain nombre de lois en économie. Je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé par les économistes hétérodoxes. Il y a des lois en physique, en économie, il y a peut-être des régularités, on peut mettre en évidence des causalités, mais la loi en tant que telle n'existe pas.
Quels exemples on peut mobiliser justement pour prouver cela ?
Je pense que le meilleur remède à la croyance en ces lois en économie consiste à observer le réel. Et évidemment, on a tous un accès au réel qui est partiel, qui est conditionné à notre vision du monde. Mais l'observation du réel, l'observation aussi des découvertes en biologie, en neurosciences, en psychologie, dans les sciences humaines, peut nous aider, et puis la mobilisation de l'histoire. Bernard Maris insiste beaucoup sur la mobilisation de l'histoire et de l'anthropologie, peuvent nous aider à mieux comprendre le réel plutôt que des lois abstraites comme l'offre et la demande, effectivement, qui n'existent pas. Beaucoup de néoclassiques croient en la fameuse loi de Say, c'est-à-dire la loi de Say, il n'y a jamais de problème de surproduction. Vous avez une offre, automatiquement, ça va créer une demande en face. Or, on a très bien vu à plusieurs reprises, en particulier au moment de la crise de 1929 et au moment de la crise de 2008, que ceci n'est pas vrai. Donc, l'observation du réel, l'observation de l'histoire, l'étude de la psychologie sont autrement plus importantes que l'étude de pseudo-lois en économie.
Bernard Maris dédicace son livre à tous ceux qui savourent le mot gratuité, et son livre se termine sur un éloge de la gratuité. Une gratuité qui s'illustre selon lui dans la recherche, par exemple. Oui. En quoi la recherche pour lui, c'est un lieu de gratuité, de coopération ?
Eh bien, si vous menez votre recherche dans votre coin sans jamais communiquer sur les résultats de cette recherche, sans jamais partager le fruit de votre savoir, donc sans gratuité, il n'y a plus de recherche possible. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement des scientifiques pour la gratuité du savoir, parce que un certain nombre de revues ont essayé de clôturer le savoir pour rendre cet accès au savoir payant et donc profitable. Et donc il y a un vrai mouvement qui se traduit par l'open source, entre autres, et par le partage des articles. contre cet accès payant et particulièrement onéreux au savoir. Dans la gratuité, il y a évidemment toutes ces actions de la vie humaine qu'on connaît tous et qui n'ont strictement rien à voir avec la rationalité économique ou en tout cas avec le calcul d'utilité ou avec l'argent.
Ce que dit Bernard Maris, c'est que la logique marchande cherche à dissimuler toutes ces actions de gratuité qui existent au quotidien, mais que l'économie, dans un sens, ne veut pas voir.
En effet, en tout cas, l'économie dominante ne tient absolument pas compte de toutes ces actions qui expliquent finalement que on a besoin d'institutions pour réguler les échanges économiques. On a besoin du don, on a besoin de la gratuité pour que l'économie fonctionne. Dans l'économie mainstream, vous avez cette vision très froide de la rationalité calculante qui n'est absolument pas prise en compte. Donc, et c'est même pire parce que le mainstream, et à un moment Bernard Maris pointe ça du doigt, le mainstream essaye d'expliquer tous les comportements humains par cette rationalité calculante, et ceci trouve son point culminant chez Gary Becker, qui essayait d'expliquer le mariage, le suicide et même le racisme par un calcul d'utilité égoïste. Et c'est plus cette rationalité-là que pointe Bernard Maris dans son ouvrage.
Et alors Bernard Maris consacre un chapitre entier à la faillite d'Enron, emblématique selon lui du manque de transparence et de l'accaparement des profits par une petite élite.
Et des deux manières dont on peut interpréter cette faillite d'Enron.
Alors justement, le géant américain de l'énergie s'est effondré en quelques semaines en 2001, alors même que le modèle de l'entreprise faisait figure de cas d'école dans les écoles de commerce.
Effectivement.
C'est cela que Bernard Maris...
Effectivement, et il nous dit qu'il y a deux manières de voir la chose. La première, c'est de prendre ça du point de vue de la théorie de mainstream, c'est-à-dire on nous dit qu'il n'y avait pas assez d'incitation, on nous dit que l'information n'était pas assez symétrique, etc. Il y a une autre manière de voir les choses, plus pragmatique, plus proche du réel, plus réaliste, qui consiste à dire finalement c'était le capitaliste des copains.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il explique dans ce chapitre ?
Il explique que Enron, c'était une formidable arnaque, comme l'était une arnaque de type pyramide de Ponzi. C'est-à-dire, vous connaissez cette histoire de Ponzi. On fait fortune en disant aux gens, la banque vous propose du 3%, moi je vais vous proposer du 100%. Et donc, on rembourse les deux premiers gogos qui vous prêtent 100, on les rembourse à 200. Mais évidemment, il faut trouver d'autres gogos derrière. Et quand ceci s'arrête, les derniers gogos qui ont contribué à votre pyramide de Ponzi sont lésés.
Pour conclure, Danny Lang, quel est le rôle des économistes selon Bernard Maris ? Quelle place est-ce qu'ils doivent occuper dans la société ?
Alors Bernard Maris aimait bien Keynes, c'est un point commun. Et je pense qu'il aurait dit, et il le dit dans l'ouvrage d'ailleurs, que Keynes avait vu juste sur le rôle qui devrait être celui des économistes. Keynes pensait que le rôle de l'économie, c'était d'aider à résoudre le problème de l'économie, c'est-à-dire à assurer que tout le monde ait un emploi et des conditions d'existence dignes. Et puis ensuite, on s'occupe des choses importantes. Alors pour Keynes, c'était la culture et les bons vins. Je pense que Bernard Maris n'était pas très loin de partager cette vision des choses.
Merci beaucoup, Danny Lang, de nous avoir fait découvrir l'anti-manuel d'économie de Bernard Maris. Je recommande vraiment aux auditeurs de partir à la découverte de cet ouvrage qui est à la fois très intéressant et très agréable à lire. Un grand merci.